France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On n'a pas tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de ne rien dire.
Sur les réseaux sociaux, il est bronzé, hilar, heureux en famille. Dans le métro, il fait la gueule avant d'aller retrouver des collègues qu'il ne supporte plus. Cette triste mine et ce double idéal, eux, en ont fait un film. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Un homme découvre un matin que son nouveau voisin est son sosie parfait, mais lui seul le voit. D'où sa névrose. Bonjour Nicolas et Bruno.
Bonjour.
Un seul ordinateur, deux souris à l'écriture et la réalisation ensemble de ce film Alter Ego. Vous avez toujours aimé cette idée du double. Et cette fois, vous avez imaginé que votre héros, Alex, rencontre la meilleure version de lui-même. Alex, c'est vous. Bonjour Laurent Lafitte.
Bonjour.
Un type tranquille, sans ambition folle, employé à la COGIP, où rien n'a bougé depuis 1982. Bref, Alex, la victime. Et Axel, le beau gosse, c'est vous aussi. Bonjour Laurent Lafitte.
Bonjour.
Deux personnages pour le prix d'un seul acteur, mais quelle performance ! Alter Ego sur nos écrans le 4 mars prochain. Enfin, avant de passer en revue les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma, nous ferons un double hommage à deux grands disparus américains, Frédéric Wiseman et Robert Duval. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Tu vois pas un truc bizarre?
Bah non, quoi? Je devrais?
Tu te fous de moi ou quoi?
Mais quoi? C'est quoi? C'est qui? On le connaît?
Enfin, mais la ressemblance.
Ah, il ressemble à quelqu'un? Bah... À qui? Ah, si. Julien Courbet, c'est ça?
Bah non, mais enfin, c'est évident.
Bonjour!
Non, arrête. Non, il parle pas.
Bienvenue dans le quartier!
Non, arrête.
Qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas bonjour?
Bah si, je dis bonjour.
Bah non.
Bah non, t'as raison.
Alex, c'est vous, Laurent Lafitte, version crâne dégarni. Découvre son nouveau voisin, son sosie, mais avec des cheveux. Alter Ego, votre film Nicolas et Bruno, tous les deux fascinés par le thème du double, déjà exploré dans La personne ou deux personnes avec Auteuil et Chabat. Le double, un thème très présent dans le cinéma, versant dramatique chez Cronenberg, Lynch ou Hitchcock, Sueur froide entre autres, et plus drôle dans La gueule de l'eau de Tchernia, ou le magnifique Philippe de Broca avec Belmondo et Belmondo. Le double, finalement, c'est le rêve des scénaristes, un peu pour multiplier la dramaturgie, Nicolas.
Oui. C'est alors, c'est vraiment, c'est un truc qui nous travaille. Hein.
Nous,
c'est-à-dire que nous, on est constitué d'une personne.
Ou deux personnes.
Oui, c'est ça, d'une personne.
Bicéphale.
Un peu moche, sans cheveux, et d'un beau gosse avec des cheveux. Donc c'est, c'est un peu un biopic en fait. Mmh. On a une sorte de biopic.
Et c'est pour aussi entrer dans la psyché du personnage, c'est intéressant,
oui.
La double face.
Oui,
ça.
bien sûr, c'est vraiment, ce qu'on adore là, dans ce qu'on a mis en place, c'est le caillou dans la chaussure, quoi. C'est vraiment le petit gravier qui vient rayer le disque, quoi. Tout va bien pour Alex,
ouais.
Celui qui a pas de cheveux,
ouais.
Et puis tout d'un coup, il voit arriver cet Axel. Et
il est confronté à sa propre médiocrité.
Exactement. Voilà, à tout ce
alors
qu'il a...
qu'il n'est pas médiocre.
Oui.
C'est ça.
En fait, il était très heureux jusque là.
Ouais.
Et finalement, Axel débarque. C'est un peu comme si c'était son profil Instagram qui vient habiter à côté de chez lui. Et il est face à toutes ses failles. Tout d'un coup, ça le renvoie à ses failles, à ce qu'il aurait pu être.
Ce à quoi il a renoncé. Quoi.
Voilà. Ce qu'on laisse sur le côté quand on vit tous les jours sans être obsédé par la comparaison.
Mais à l'écriture, vous avez pris chacun un rôle ?
Non, pas vraiment. Enfin, c'est vrai qu'on joue beaucoup notre scénario quand on écrit.
Oui, on joue.
Oui. Oui, d'ailleurs, ça nous prend beaucoup de temps. On est assez lent, hein, en fait, hein, comme garçon. On fait pas un film tous les ans.
Oui.
On joue beaucoup pour être bien prêt sur le tournage, en fait, c'est ça. Pour être bien d'accord.
Vous avez ajouté un truc très pervers, en fait, c'est que personne ne s'en aperçoit. On dirait le début de La Moustache, hein.
Oui, un peu.
Absolument. C'est un truc dingue, c'est à devenir fou.
Oui,
oui, Oui, en fait, ça l'enferme dans une sorte de névrose. Ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup, c'est la solitude au milieu des autres. C'est-à-dire ne plus pouvoir communiquer, puisque tout le monde lui dit, écoute, faut nous la paix avec ça, tu leur ressembles pas, tu fais une fixette.
Ouais.
Et en fait, voilà, ça installe une sorte de névrose chez Alex, mais qu'on a choisi de traiter par le rire. C'est-à-dire, il est...
Oui.
Ce qu'on voulait, c'est que le spectateur vive une double expérience comme lui, c'est-à-dire ouais. être en totale empathie avec lui, parce qu'on est vraiment de son point de vue, et en même temps prendre un plaisir coupable à se marrer de l'enfer qu'il vit. Quoi.
De ses mauvais choix, de...
Oui. Mais en même temps, on ne s'étonne jamais que les autres ne s'étonnent pas.
Oui.
Ça, c'est... Ah oui, c'est le grand talent de Laurent.
Ouais.
Oui.
Dans l'entreprise, ça nous paraît absolument normal.
Absolument,
quoi.
Oui. Bah, c'est le grand talent de Laurent, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une sorte de... challenge.
Il met les doigts
défi. De défi. C'est-à-dire que ça, c'est le grand talent de Laurent. C'est-à-dire qu'au bout d'une minute de film, on a complètement intégré qu'on avait affaire à deux personnages totalement différents.
Ouais. Mais Laurent, l'un, il n'est pas regardé, en fait, ce type. Il n'est pas regardé. Si personne ne s'aperçoit de son... Non, mais c'est vrai, de la ressemblance. Fait. Alors qu'un acteur, à l'inverse, il est presque trop regardé. C'est carrément l'inverse.
On n'est jamais trop regardé. Quelle belle réponse.
C'est l'acteur qui parle.
Non, mais en fait, au départ, et surtout, Alex, il est tranquille, il n'a pas de cheveux, mais il s'en fout. Il est avec sa femme qui est jouée par Blanche Gardin, qui est géniale.
Ok, ouais. Génial.
Ils sont tranquilles tous les deux, ils ont un fils, tout va bien.
Ouais.
Et c'est à partir du moment où ils se comparent que tout part en vrille, que la parano s'installe. Mais lui, au départ, il est bien. Même dans sa boîte, il bosse à la Cogip, il est tranquille, et puis il arrive un matin, il voit que son nouveau voisin, en plus, se met à travailler aussi dans la même boîte. Et là, d'un coup, il met en concurrence. Il y a Zabou Bretman aussi. Je ne veux pas révéler sa petite particularité pileuse.
Non, surtout pas.
Mais bon, Zabou Bretman, c'est un coup, elle, c'est elle aussi dans l'entreprise qui les met en concurrence. Enfin, c'est vraiment sur la concurrence qu'on s'impose, qu'on nous impose. Mais lui, à la base, je pense qu'on le regarde comme n'importe qui. Et lui, il fait une fixette sur son nouveau voisin, comme parfois on peut faire une fixette sur un défaut physique. On va être obsédé par la taille de son nez ou de ses oreilles. Et tout le monde autour va vous dire, enfin, arrête avec ça, t'es très bien. Quoi. Et d'un coup, et vous n'en démordrez pas, et tant que vous ne serez pas passé sur le billard, vous n'aurez pas réglé de problème, et puis ce sera un autre problème après, de toute façon.
Ouais, c'est ça.
Il y a un truc que vous faites exceptionnel dans ce film, c'est que vous donnez la réplique à Laurent Lafitte.
Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin.
Ah ouais, effectivement, il y a...
Vous êtes Alexandre, c'est ça?
Hein?
Oui. Non, je voulais vous dire qu'on va organiser un pot avec les voisins pour notre crémaillère. Donc vous êtes les bienvenus. Lundi soir, ça vous va?
Ouais, mais là, ça va... Non, c'est... Il y a un problème, là, ça va... Ça va pas être possible, ça.
Non, je sais pas. Qu'est-ce qui vous arrange comme jour?
Hein? Il y a rien qui vous choque, là?
Non. Non, peut-être que je vous dérange. Je repasserai un autre moment. Parce que votre femme a dit que vous étiez un petit peu fatigué en ce moment.
Pas du tout, non, je vais très très bien. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Allez-y, continuez.
Et ça va? On vous a pas trop dérangé avec les travaux? On n'a pas fait trop de bruit? Désolé.
Et en fait, vous jouez devant personne?
Ah si, qui?
Ah si, si, si.
Ah si, si, je joue devant...
Un certain garçon qui s'appelle...
Ahmed Amadi Chassin.
Oui. Voilà.
Absolument. Non, je joue devant un comédien et on en a parlé très vite de ça. Il fallait pas juste une doublure qui aurait la même carrure. Il fallait vraiment un acteur. Parce que moi, j'ai besoin, je peux pas jouer tout seul. J'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi et quelqu'un de bien, de bon. Donc, il a appris les deux rôles. Il s'est rasé le crâne comme moi.
Mais non.
Ah, bah oui, si. Puisqu'on tourne le film de deux.
Ah, bah oui, bien sûr.
Il a tout fait comme moi.
En moins bien, évidemment. mais pas payé pareil. Mais pas payé pareil.
Et quasiment pas payé. Il était là pour apprendre. C'était plus une chance d'apprendre. Comme un stage d'observation.
Ouais.
Non, c'est un acteur formidable qui sort du conservatoire, c'est un très très bon acteur et il a abordé ça avec justement beaucoup de pragmatisme, d'humilité et un vrai désir de vivre cette expérience.
Ouais.
Et c'était vraiment génial. On ne le verra jamais à l'image, mais croyez-nous sur parole, il est formidable.
Ouais.
Sinon, moi, j'aurais pas pu jouer en face de quelqu'un.
Mais il est crédité au générique.
Ah, ouais, bien sûr.
Vous alliez dire.
Oui, et il a disparu tout au long du montage. Petit à petit, il a disparu, c'était hyper émouvant. Et puis, un jour, il a disparu.
Rien.
Ouais. On l'a appelé, on était à moitié en larmes. On l'a appelé, on dit, ça y est, Ahmed, t'as disparu complètement.
Pour une fois qu'il n'aura pas la surprise d'être coupé au montage.
Oui, c'est un peu...
Alors, c'est un peu le deal de départ.
Bah oui, il fallait faire deux voix, en fait. Là, on le sent bien dans cette scène. Hein.
Alors, deux voix, pas tant que ça.
Il y a une petite différence, quand même.
C'est plus un truc d'énergie, quoi. Mais j'ai pas essayé de créer deux voix. Mais c'est une manière... Forcément, quand on n'a pas confiance en soi, on s'exprime pas de la même façon.
Et l'autre est...
Oui. Mais l'autre, il est plutôt...
Il affirme.
Oui, il est sûr de lui, ouais.
Oui, Alex, c'est un personnage qui coule. Oui. Et Axel, c'est un personnage qui rebondit. C'est Alex, il a des vêtements un peu larges, un peu élimés, un peu mous, avec des couleurs un peu molles aussi, un peu gris, marron. Axel, c'est il est tout au cordeau, il est tendu. Et quand on a vu, nous, pour la première fois, Laurent... Parce qu'on tournait Alex le matin et Axel l'après-midi.
Parce que Laurent Lavitte s'est rasé.
Et voilà, parce qu'il s'est rasé. Et donc, l'après-midi, il mettait sa perruque, etc. Puis
la perruque du personnage.
La perruque du personnage.
Oui, c'est important. Non, mais oui, parce peut-être. Que...
Oui, soyons clairs.
Et ses dents.
Et
ses...
Non, et effectivement, la première fois, quand on l'a vu arriver, on était fasciné. C'est-à-dire que là, tout était réuni, la coiffure, le maquillage, les vêtements, le décor, etc. Et on était, mais vraiment totalement fasciné. On était en fait à la place d'Alex. C'est-à-dire que c'était effectivement la même personne avec qui on avait tourné le matin, mais totalement différente en même temps. Et c'est même dans la posture, dans la façon de se tenir, on est dans sa façon de sourire, même le port de tête et tout. Enfin, c'est incroyable ce qu'il a fait, Laurent.
Mais Laurent, vous êtes rasé le crâne. Oui. Qu'est-ce que, pendant 6 semaines, donc, comment vous l'avez vécu, vous, ça, dans la vraie vie? Bon, je sais que vous avez mis une casquette, vous avez vécu ce que c'est que d'être chauve?
Ça me va pas du tout. En plus, j'ai le crâne un peu pointu, moi. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ça va pas mal, qui ont une belle tête ronde et tout. Ouais, oui, Bruce Willis, Jean-Marc Barr, c'est des beaux
crânes.
Comment
vous ressentiez les autres par rapport à...
Nicolas.
Je confirme qu'on peut très bien vivre.
Bah oui, bien sûr.
Ça se passe très bien.
Non, mais là, c'est une façon d'entrer presque dans le personnage super physique.
Oui, c'est ça. Ça s'est beaucoup passé par ça, en fait. Et forcément, comme je me regardais, je me trouvais un peu dégradé. Donc forcément, même moi-même, ça m'atteignait, donc ça m'aidait. J'allais au bout de ça pour aussi dégrader mon personnage. C'est vrai qu'à partir du moment où, si c'est pas un problème, ça va, mais si ça en devient un, ça doit être pesant.
C'est un truc sur lequel tu t'es engagé tout de suite. C'est-à-dire, la première fois qu'on l'a vu pour parler du scénario qu'on t'avait envoyé, on lui avait apporté une sorte de visuel un peu bricolé de lui.
Un montage Photoshop
bricolé de lui avec une tonsure. Et Laurent a regardé le montage.
Il a fait, vous allez
me raser? On lui dit, ouais. Et là, il regarde la photo, il dit, ok. Il est hors de question que je ne fasse pas ce film. Donc, immédiatement, il s'est engagé à fond. Et
j'avais lu le scénario.
Et l'intégrité physique, c'était important, quoi.
Mais vous aimez bien vous en les dire?
J'aime bien me transformer. Parce que je suis déjà allé au départ. Ouais. C'est ça. Merci Laurent. Non, pas vous envie de dire me transformer. C'est le mot que je cherche.
Non, mais par exemple, je me rappelle le César quand vous avez fait ce maquillage incroyable vous foutre de la gueule des actrices.
Je me foutais pas de la gueule des actrices parce que je faisais un acteur en l'occurrence qui a aussi fait refait le visage. Donc je pense que ça concerne. Peut-être ça concerne un peu moins les hommes parce qu'ils ont moins la pression sur ce sujet-là, mais il y en a quand même qui font quelque chose, deux, trois trucs assez visible. Hein.
Vous aimez bien vous cacher, en fait?
Je ne sais pas, j'ai pas l'impression de me cacher, j'aime bien inventer des personnages et disparaître le plus dans les personnages.
Ouais. Ou montrer autre chose de vous?
Non, mais de moi, j'ai jamais l'impression de montrer des choses de moi ou pas. J'ai l'impression d'essayer de faire ce qu'il faut pour qu'on croie au personnage. Ouais. Et c'est tout, en fait.
Vous êtes hyper opaque, en fait, comme acteur.
Vous trouvez opaque?
Oui.
Ah bon?
Oui.
Bah, très bien.
Absolument.
On
ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, comme disait l'autre. Ouais. Donc j'aime bien. Moi, je trouve ça important d'être une espèce de page vierge. Comme ça. Mais c'est pas parce que j'ai envie d'être opaque ou mystérieux.
Non.
C'est juste parce que c'est... mon travail sera plus efficace, c'est tout.
Vous trouvez que les acteurs, on raconte beaucoup sur eux, en général? Par exemple, les réseaux sociaux, sur les réseaux...
Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux.
Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux?
Non.
Vous n'allez pas au défilé de mode?
Non, alors, est-ce que c'est parce qu'on ne m'invite pas? Je ne sais pas, mais en tout cas...
Vous n'avez pas d'agent d'image?
Si, j'ai un agent d'image.
Ah bon, il sert à quoi, alors?
Bah, il sert à ce que je sois à peu près bien habillé quand je vais faire des émissions de télé.
Et vous n'êtes pas payé pour porter des vêtements?
Ah si, ça m'arrive. Ouais. Si. Oui.
Oui.
Bah oui. Comme ça, après, je peux faire des tout petits films très mal payés.
Et voilà.
Merci. Merci, Laurent.
C'est ça le...
Ah bah, bien sûr, ouais.
C'est ça l'argument, ouais. On va vous écouter dans... on a fait une vraie parenthèse, mais bon...
Ah oui,
je tenais à poser cette question, parce que je trouve ça assez étonnant, effectivement, à notre époque, ouais. Quand on lit plein d'interviews d'acteurs, etc.
Ah, bien sûr.
À chaque fois, l'article dit... en fait, il sort jamais de son précaré d'acteur. Il a peut-être raison, en fait, ouais. de pas dévoiler autre chose, quoi.
Ben, enfin, surtout, c'est pas très intéressant. Hein, je vous le dis tout de suite. Je préfère parler d'alter ego que de ce que je fais quand je travaille pas. Ouais. Comme je travaille tout le temps.
Comme, c'est ce que j'allais dire.
Mais c'est ça. En fait, vous travaillez.
Merde, j'ai pas de vie privée, en fait.
Privée, c'est peut-être pour ça que j'en parle pas.
Pas de vie, pas d'amis, rien, quoi. Pour combler un vide existentiel pour ces films.
Non, quand je reçois un scénario comme celui de Nicolas et Bruno, qu'est-ce que je fasse?
C'est irrésistible.
C'est un moment où j'ai beaucoup bossé, un peu trop d'ailleurs. Enfin, pas trop, mais beaucoup bossé, c'est le hasard, quoi. Mais je pouvais pas refuser un rôle
celui
pareil,
de la République du Monde.
Pareil. Juste après. Ah, ouais. Mais et puis surtout, je connaissais leur travail quand même. J'avais vu les messages à caractère informatif, bien sûr. La personne ou deux personnes. Hein, j'étais trop content qu'ils pensent à moi.
Vous rêviez de lui quand vous écriviez ou pas? Oui, vous aviez déjà son accord.
En général, en fait, on s'interdit de penser à l'acteur. Quand on écrit, on préfère amener l'acteur au personnage plutôt que le contraire. Ouais. On risque d'être dans la redite ou la citation, etc. Donc, en fait, on essaie de pas y penser. En fait, on a fait un film un petit peu sur le produit, quoi.
C'est-à-dire,
on avait une.
C'est nous, parfois, au sens culinaire.
On se compare.
On attend.
On se compare parfois à des cuisiniers, quoi, qui prépareront un plat et qu'on envoie en salle ensuite. Et là, on avait envie de faire un film sur le produit avec une belle tranche de Lafitte, cuite en deux façons, accompagnée de
petites chez Gaudry.
De petites pommes de terre. On avait de la Gardin, belle. Patates. On avait une fraise pour sublimer ce petit plat, pour donner un peu de peps. Et puis on avait
c'est la marque fraise ou c'est la.
Et on avait une belle feuille de chou Kurilenko aussi, flamboyante.
Non, la vie, ça explose son verre d'eau. Lequel vous avez préféré jouer finalement?
Alex.
Ah oui?
Ah bah ouais, Axel, il est... Ce qui est drôle, c'est la figure, ce qu'il représente et ce que ça va provoquer chez Alex. Ouais. Mais c'est Alex qui est intéressant à jouer parce qu'il part dans un tel délire paranoïaque qu'il en devient ridicule et attachant. Et je pense qu'on s'identifie tous à Alex, c'est ça qui est un peu rassurant d'ailleurs. Ouais. Quand on regarde le film, on est quand même s'identifie plus à lui qu'à l'autre.
Oui, on partage beaucoup le goût de l'autodérision, des petites lâchetés, des petites faiblesses. On s'est beaucoup amusé avec ça. C'est très
Et bien, Alex, il est jaloux de Axel. Conversation nocturne au lit avec Blanche Gardin.
Oh putain, ça recommence. Ah non, je m'en fous, je vais taper sur le mur cette fois.
Non, fais pas ça.
Attends, mais il nous empêche de dormir.
Eh ben, on qu'à faire comme eux.
Enfin, Nathalie, c'est pas le sujet.
Un peu.
Alors tout le monde baisse, quoi. Ça t'excite ou quoi? Mais si j'ai une énorme bite, et je la fais savoir à tout le quartier. Avec ma Miss France de l'Est, là, qui calme tout le monde.
Chut.
Mais au secours, quoi. Monsieur, je me passe la main dans les cheveux, hein? Monsieur, j'ai une gonzesse hyper sexy.
Décidément, merci.
Monsieur, je prête pas ton leza à tout le monde. Monsieur, je te prends pour une déchetterie, hein? Monsieur, je me fais entretien par ma gonzesse qui bosse dans je sais même pas quoi. Monsieur, je te désaccorde ma guitare en massacrant Yves Duteil. Monsieur, sombre connard, ouais!
T'es juste jaloux, en fait.
Jaloux, moi, de ce hypocrite, égoïste, facho de nazi? Putain, excuse-moi. Hein. En revanche, tu rigoles beaucoup à ces blagues, hein?
Ouais, c'est ça, ouais. Je comprends pas. Vous avez tellement de trucs en commun.
Moi? Avec ce type? Enfin, c'est tout ce que je déteste, de A à Z.
Super dialogue. Vous en avez ajouté ou pas? Ou c'était au cordeau?
On rajoute des petits trucs de temps en temps.
Ah oui, bien sûr. Ah bah oui. Laurent, c'est pas le genre d'acteur qui arrive le matin sur le plateau en disant c'est quoi le film, qu'est-ce qu'on tourne,
c'est quoi le texte.
Ça peut arriver.
Ouais, très bon.
Mais non, là, Laurent, c'est en fait, c'est assez drôle parce qu'on s'est rendu compte au bout d'une semaine qu'on avait autour de nous que des auteurs. Réalisateur parmi nos acteurs.
Ah oui,
Zabou. Laurent, Zabou, Blanche, Marc Fraise, qui écrit. Donc il y avait beaucoup de propositions, c'était génial.
Et ça vous va, ça c'est pas...
Bah ouais, de plus en plus, en fait, on s'ouvre de plus en plus à ça. Au début, on était un peu, le dogme, on avait dit qu'on faisait comme ça.
On a dit ça.
Et en fait, de plus en plus, on a des telles richesses, des tels talents autour de nous.
Le fait qu'il ait ajouté nazi à fasciste, ça vous a pas gêné, quoi, par exemple?
C'est extraordinaire.
Oui, bien sûr.
C'est génial, mais là, c'est une Rolls. Les gens ne le connaissent pas encore, mais c'est vraiment un jeune.
D'ailleurs, ça a commencé un petit peu tard, la reconnaissance, non?
Ouais.
Vraiment.
Ouais, vraiment, ouais.
Vers 35 ans, vous dites, un jour, le cinéma m'a choisi.
Alors,
ça veut dire quoi?
Dit comme ça, c'est prétentieux.
C'est
beau, non?
qui est le cinéma?
Non, j'ai peut-être pas dit comme ça. En tout cas, il y a un moment, enfin, que le cinéma, vous avez moins les choses entre les mains que le théâtre, forcément, parce que moi, par exemple, quand j'ai décidé de faire mon one man show, c'était c'était fallait réussir à le monter, mais je veux dire, c'était une personne sur scène, c'est beaucoup plus simple. Le cinéma, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une espèce de cohérence entre qui vous êtes, ce que vous dégagez, ce qu'on va projeter sur vous. Et il y a des gens, et c'est à ce moment-là que le cinéma vous choisit, ou en tout cas que vous êtes en position de pouvoir l'être. Et ça, c'est une sorte d'alignement qui arrive parfois à des gens très jeunes, à 20 ans, 18 ans, une espèce de maturité, d'évidence, de cohérence entre ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, ce qu'on projette sur eux. Et puis il y a d'autres gens, ça prend plus de temps, ça passe par ce qu'ils vont réussir à installer, ou par l'écriture, ou par... Voilà.
Mais est-ce que... Vous avez trouvé la question idiote, mais est-ce que...
Sans doute, oui, mais allez-y.
J'adore me faire oublier par Laurent Lafitte. C'est vraiment un plaisir.
Prenez cette perche. Alors dites-la.
Est-ce que... Non, mais est-ce que, jeune, votre physique de belle gueule vous a empêché de faire certains films, vous voyez ce que je veux dire?
Eh bon, là, il y a la question.
Non, mais vous voyez, est-ce que votre physique de beau gosse était trompeur?
Mais beau gosse, je sais pas, mais peut-être un peu... Oui, un peu lisse, quoi.
Voilà.
Ah oui, moi, je sortais de mon 16e. J'avais pas une éducation particulièrement bourgeoise, mais j'avais grandi quand même dans un environnement bourgeois. Donc, je pense que je dégageais quelque chose de très poli, souriant, qui correspondait pas du tout à mon imaginaire, mon humour. Et quand on me voyait comme ça, 5 minutes en casting, on pouvait pas savoir vraiment à qui on avait affaire. Mmh. Donc, ça a pris plus de temps.
Vous aviez pas faim?
J'avais pas faim.
Ouais.
De...
Ben, vous aviez. Il fallait absolument. Il n'y avait pas d'urgence absolue.
J'avais extrêmement faim.
Ah oui.
Ah ben oui, mais pour moi, ça aurait été. Je sais pas, mais ça aurait été presque impudique ou mal élevé d'être dans une énergie de conquérante. Enfin, ça aurait. Donc, en fait, j'ai dû forcer un peu ma nature sur certains points. Oui.
C'est-à-dire, il y a une petite gêne là, non?
Ah non, il n'y a pas de petite gêne. Non, c'est parce que... Mais reparlons du film.
Non,
mais...
pour reparler du film, voilà. ce côté belle gueule et dans tout ce qui cache derrière, nous on a profité de ça et c'est pour ça vraiment qu'on a pensé à Laurent pour le rôle.
Oui.
C'est-à-dire que Laurent, il sait jouer à la perfection à la fois ces petites lâchetés, cette autodérision dont on a besoin et en même temps un mec très flamboyant comme est Axel dans le film. Et cette ambivalence, il la maîtrise super bien. Ouais. C'est de ça dont on a pu, jouer.
En fait, c'est super intéressant ce double rôle parce que ça symbolise un peu votre carrière et vos... Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mm. Il y a en même temps le drôle, parce que ça peut être... C'est très grave comme thème, en fait.
Ouais, bien sûr.
En fait, une comédie, mais c'est hyper grave.
C'est horrible ce qui lui arrive.
C'est horrible.
Mais c'est un terrain... C'est comme un cauchemar, mais c'est pour un terrain de comédie et de mélange des genres de comédie. C'est-à-dire que nous, on aime bien mélanger les choses. C'est à la fois, il y a de la comédie absurde, fantastique, de situation, il y a du dialogue, il y a aussi de la comédie un peu théâtrale. Ça part dans le vaudeville à un moment.
Oui, complètement.
Ouais. Complètement dans le vaudeville. Ouais. Et c'est, nous, on adore mélanger les registres comme ça. On se souvient de quand on avait fait La Personne aux deux personnes, un journaliste qui était très embêté. Il nous disait, j'ai adoré le film. Il disait, mais c'est quoi le... C'est une comédie d'auteur? Enfin, c'est quoi? C'est un film d'auteur? C'est une comédie? C'est... Qu'est-ce que c'est, quoi? Il n'en avait pas dormi de la nuit. Il avait la bouche sèche. Il n'était pas bien du tout. Et on lui disait, mais non, mais justement, c'est ça qu'on aime bien. Nous, on aime bien être sur le fil ou sortir des cases.
Il y a même d'autres gens dont on ne parlera pas parce que c'est la fin du film et on ne parle pas de la fin du film.
Il y a d'autres gens. Non, mais parce qu'en fait, vous allez.
Non, mais c'est vrai, trois.
Non, ce qui est fort, c'est que vous allez jusqu'au bout de votre théorie.
Ah oui.
C'est ça le truc. Vous allez jusqu'au bout du. Enfin, voilà. Vous allez au plus profond de la psyché, en fait.
C'est ça. Ouais.
On voulait pas faire un film à pitch qu'on déroule avec une session de sketch. Nous, on avait vraiment un objectif, c'était cet acte 3 qu'on ne révélera pas.
Non.
Et puis.
Excel.
Exactement.
Axel.
Absolument.
Merci Laurent.
Non, rien.
Et puis tout ce qu'on égrène chemin faisant, voilà cette obsession de la performance, de présenter toujours une meilleure version de soi-même, de l'herbe toujours plus verte dans le jardin d'à côté, enfin tout ce qui fait qu'il va partir en vrille. Ouais.
Et cette Alex, il chante aussi.
Le temps qui s'échappe, l'écho des regrets. Les amants s'écharpent sans aimer jamais, sans aimer jamais, sans aimer jamais, sans aimer jamais, sans aimer jamais.
Tu veux pas nous jouer le morceau là, tu sais c'était quoi?
Putain, Nate. En tout cas, c'est super joli. Hein.
Ah ouais,
c'est
magnifique.
Beau. Hein. Ouais. De toute façon, c'est imparable, cette mélodie de Brel. Elle est, De quoi? C'est Ne me quitte pas, non? Bah non, pas du tout, c'est une compo perso. Donc, en même temps, on s'inspire tous un peu les uns les autres. Hein, mais...
Il a un petit côté ado, en fait. Hein. Adolescent.
Oui, complètement. Bah oui,
ah, c'est drôle.
Il se cache dans
une cabane
pour enfants.
Qui boude.
Oui, tout à fait, bien sûr. C'est ça, les petites lâchetés.
C'est un homme blessé. C'est un homme blessé et fragile.
Ouais, sa masculinité, on prend un coup. Hein.
Okay. Bon, c'est quoi cette COGIP là, que vous avez inventée il y a pas mal d'années, dans laquelle on ne sait pas ce qu'il fabrique à la COGIP?
Bah non, personne ne sait d'ailleurs. Nous, on est des PDG depuis 30 ans de cette entreprise. Et on ne sait toujours pas ce que ça veut dire, ce qu'ils font les gens. Les gens qui y travaillent ne savent pas non plus ce qu'ils font comme travail. L'avantage, c'est qu'on en fait ce qu'on veut dans nos films, vu qu'on est les créateurs de cette entreprise. Donc, ça peut être une multinationale dans La Personne aux deux personnes, ça peut être plein de boîtes différentes dans le message à caractère informatif. Et puis là, c'est une PME de province, dans le nord de la France. Ils sont une quinzaine. Ça n'a pas trop bougé depuis 1984.
Il découvre d'ailleurs à l'occasion ce nom, COGIP.
Ben, on sait pas trop. C'est révélations divines.
Ouais. Ah ouais.
Voilà.
C'est
pour nous, c'est une entreprise qu'on travaille un peu dans tout ce qu'on fait et qui est un peu en fait c'est une sorte de théâtre où tout le monde joue des rôles. C'est ça un peu l'entreprise. Hein. Bien sûr.
Les gens sont écrasés un peu.
Bien sûr. Il y a de la souffrance, il y a du malaise. Il y a pas que ça. Hein. On n'est pas des anti-entrepreneuriales primaires. Mais c'est comme une scène de théâtre où Alex ne sait plus quel rôle jouer. C'est-à-dire qu'il a sa vie qui s'effondre dans sa vie privée, et c'est le cas aussi à la COGIP.
Il y a presque un côté Welbeck là-dedans, non?
L'extension de Manuel, on a adoré. Bah, on faisait le message à ce moment-là, le message à caractère informatif sur le canal. À ce moment-là, mais c'est vrai que nous, ça a été incroyable. C'est une révélation, ce bouquin, on a adoré.
Et derrière, il y a aussi l'idée de la bagnole, des fringues et tout ça. Le mec a sa cave à vin, quoi. C'est une critique de cette petite bourgeoisie moyenne.
Il a une très très belle cave à vin. Bah, c'est vraiment, là, c'est le masculin, là. C'est vraiment, c'est le c'est tous les attributs, c'est c'est la performance, c'est la réussite, voilà, sa bagnole, sa cave, ses canapés,
sa femme, tout.
Oui, c'est tous les attributs de la masculinité devant lesquels Alex va se retrouver démuni et il va essayer même lui-même de reprendre un peu les rênes, mais plus il le fait, plus il s'enfonce.
Et
plus
c'est... En fait, c'est l'antithèse de la phrase « quand je me vois, je me désole, quand je me compare, je me console ».
Ah ouais.
Mais oui, c'est très bien. On se dit, ça va, je me...
Ouais, ça devait être le titre, à un moment. On se dit que c'était un peu long.
C'est le contraire de... Sur le thème du double, j'évoquais tout à l'heure La gueule de l'autre, 1979, de Pierre Tchernia, avec Michel Serrault, un homme politique engage un sosie, acteur raté. C'est son cousin, invité d'une émission politique.
Alors, venons-en tout de suite à la question que se posent avec moi tous les Français. Comment comptez-vous, vous et vos amis, lutter contre la vie chère, contre le pain qui ne cesse d'augmenter et contre le beefsteak à 80 francs le kilo?
Mais oui, mais alors le kilo de quoi?
Ah ben le beefsteak.
Mais dans le filet alors?
Oui, peut-être, je ne sais pas.
Mais non, mais mon cher ami, alors là, nous sommes dans un autre univers. Moi, je vous parle de ce que je connais, de ce que les gens connaissent. Nous parlons macreuse, hein? On parle macreuse et plat de côte.
Oui, bah écoutez, parlons plat de côte, je ne suis pas secteur.
Bon, alors vous savez combien ça coûte le plat de côte?
Mais certainement.
Alors donnez-nous un chiffre.
Oui, enfin, c'est sûrement scandaleux, comme tout d'ailleurs.
Mais non, mais ça a une précision, je vous demande un chiffre.
Mais écoutez, je ne peux pas vous dire à un franc près, il faut tenir compte des indices saisonniers, des coefficients.
16 francs. Voilà. 16 francs le kilo,
oui, le plat de côte. Vous êtes très au courant.
Oui, parce qu'à la maison, c'est moi qui fais les commissions.
Ah bah bravo.
Alors, vous vous rendez compte à combien ça vous revient à l'heure actuelle, un malheureux pot-au-feu, quand vous avez déjà 1,5 kg de plat de côte? Bon, vous avez vos légumes, vous avez vos carottes, vous avez vos
saucisses. On peut faire un quart d'heure.
Ah oui, un quart d'heure.
Et alors, naturellement, vous ne devez pas manger souvent de pot-au-feu.
Ah, ça, je ne vous permets pas de dire ça. Si, M. Perrin, je mange du pot-au-feu, comme tous les Français.
C'est ça, et vous ne mettez pas de saucisses dans votre pot-au-feu.
Bon, Serrault, on le sait, c'est un modèle absolu pour vous, Laurent Lavie.
Ah, Serrault ?
Ouais.
Ah oui.
Ouais.
Et Serrault était fou un peu, il y avait une espèce de folie aussi.
Ah bon?
Ah oui, ouais.
Dans la vie?
Ben,
il était assez sombre.
Ce qui est fou, ce que vous faites pas, il continuait ses rôles jusqu'aux 20h, il continuait ses personnages.
Ah, oui.
Alors lui, il se cachait vraiment bien.
Oui, oui, c'est vrai, sans doute. Mais il y avait beaucoup. Il y a toujours quelque chose d'un peu tragique.
Oui.
Mais non, et puis surtout une inventivité. Oui.
Avec Poirier, il faut dire aussi que le duo est.
Ah, bah oui, c'est deux, là, mais même là, ça se sent. Même sûr, là, ça sent, parce qu'à mon avis, il en rajoute.
On sent qu'il peut faire une demi-heure.
On sent qu'il fallait travailler avec des réalisateurs qui l'aimaient. Et moi, c'est un peu ce plaisir-là que j'ai eu aussi avec Nicolas Bruno. Quand vous sentez que les réalisateurs sont friands de ce que vous allez leur proposer, mais qu'ils savent où ils veulent aller, qu'ils ne sont pas juste là à prendre tout ce que vous leur proposez, ça donne des ailes.
Vous les faites encore des clients, parce qu'ils sont toujours clients, même après le film.
Et La gueule de l'autre, c'est vraiment un film de chevet pour nous. Et c'est vrai qu'il y a ce point commun de jubilation, c'est-à-dire qu'on jubile à le voir à le voir faire tout ça à l'écran, et en même temps tu sens qu'il jubile, quoi. C'est ça qu'on a aimé chez Laurent. C'est vraiment
Et puis c'était une volonté aussi de faire, enfin c'est un peu un plateau, enfin c'est un rôle un peu sur un plateau, enfin on adore ça, on adore aussi 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ,
la tirade. Elle est très proche de celle des films de Jean-Yann, je trouve, un peu.
Oui.
Peu dans le genre. Ça s'appelle Alter Ego, ça sort le 4 mars prochain. Vous restez avec nous. On se retrouve pour 2 hommages. Après naissent le bruit et le silence.
Si je viens, c'est que je me donne sur le track. Si je viens, c'est que je me donne sur le track. C'est pas pour rien si y a mon place sur le tract. Regarde-moi bien, je n'ai jamais signé le pacte. Je n'ai fait que viser le top. Je n'ai fait qu'assumer mes failles. Regarde-nous bien, on n'a jamais signé le pacte. Faut mettre bien sa famille, ses amis, les amis de la famille des amis, et j'en passe. Les gens viennent, les gens partent, des boulevards, des impasses, des civils, des gendarmes, des refrains, des gens lâches, des refrains, des couplets, des tout larges, des tout maigres. Je voulais un crew, une équipe. Je voulais palper du liquide. J'étais frêle et intuitif. Quand je pense à la grandeur du risque, quand je pense à la pression du disque, plus le coup dans les veines, je n'ai pas de collal. Si tu n'es pas pour de vrai, je ne fais pas de collab. Et y'a 2-3 rappeurs qu'il faudrait call out. Je vous baise, big up, shout out. Je suis dans le métro, des flashs dans le rétro. Devant j'ai le succès ou les ulcères. Soit je me bouge, soit je moisis. C'est moi qui choisis.
C'est moi.
Je confonds le mercredi et le dimanche, le bruit et le silence, le lit et le divan. Tu m'achèteras pas avec tes pièces, des billets. Ta morale s'étend à du vide, des miettes. C'est la mienne, douce comme le miel. J'ai rempli, fait grossir l'assiette. Un peu de fame, ils veulent draguer des fillettes. Ils sont sur une ficelle. Il mérite la civière, la gilette. Normal, je la rafale comme Clint Eastwood. C'est pour ça qu'il y a la tête de Chick qui bouge. Nous, on t'aime pas trop comme un vil si louche. Nous, on fonce dans le tas comme un missile douce. Il a voulu tirer cet imbécile tous. Dommage, il a trahi, on l'appréciait tous. La guerre quête de loin quand la paix s'étouffe. Si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Les non-dits ont tué nos familles. Les hauts placés ont bafoué nos valeurs. Les frères ont boosté nos batteries. Nos mères ont étanché nos malheurs.
9-4 comme le 113.
9-4 comme le 113, 113 comme le BPM. Invisible sur la map, je suis une sorte de VPN. J'calcule pas trop les stats, rien à foutre du CTR. Ma voix sur la TR, donc remballe ta CTM.
J'mets de l'argent dans le physique, comme si j'veux un BBM.
Si tu me croises dans la rue,
j'suis toujours avec les mêmes.
Elle est poilue comme une beuge,
verte comme CTLM.
Merci, la musique m'a donné un sens. J'rappe comme si j'fredonnais un sample. J'ai toujours marché avec le même instinct. J'traîne avec des geeks ou avec des lascars. J'pose assis et icy comme l'Alaska. Souvent près de l'objectif comme un NASCAR. J'envoie de la rime de bâtard, c'est pas du bas de gamme, c'est un motif de bagarre.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Avant les sorties, Laurent, on va évoquer la mort de Frédéric Wiseman cette semaine. S'il fallait raconter notre monde, son œuvre ces 5 dernières décennies serait essentielle, l'expérience humaine à l'intérieur des institutions.
Oui, il ressemblait à un lutin malicieux, tout droit sorti d'un conte fantastique, alors que ses films documentaires, eux, constituent désormais un incroyable corpus sociologique, une observation à nul autre pareil sur la civilisation occidentale de la fin des années 60 à nos jours. Le cinéaste vient de nous quitter et son regard manque déjà. Il aura tout filmé, ou presque, aux États-Unis, mais aussi en France et ailleurs. Pour entrer dans la carrière, l'hôpital psychiatrique et pénitentiaire de Bridgewater, et puis un commissariat à Kansas City, un centre d'aide sociale à New York, un lycée à Philadelphie, un centre commercial à Dallas, l'hippodrome de Belmont, une salle de boxe, l'université de Berkeley, une bibliothèque, la National Gallery à Londres, sans oublier, tenez-vous bien, le Crazy Horse, ici à Paris, la Comédie Française, l'Opéra de Paris, et même un restaurant gastronomique étoilé du côté de Roanne, ou bien encore une trilogie sur la présence militaire des États-Unis à l'étranger. Excusez du peu. « Je ne dois pas imposer mes idées préconçues », a-t-il affirmé un jour. Et de fait, ces films laissent tout l'espace à celles et ceux qu'ils filment dans la durée, au prix de montages ultérieurs qui sont comme d'immenses paysages à organiser. Oui, le regard équilibré, juste, modeste, éclairant de Wiseman va nous manquer parce qu'il nous permettait à nous, spectateurs, tout simplement, de remettre l'humain au cœur du village-monde. Eh ben, c'est pas rien.
Et la disparition d'un autre Américain, ce grand acteur Robert Duvall à 95 ans, 7 décennies de cinéma, 7 décennies de cinéma, économie dans le jeu, un charisme tranquille et dans son parcours d'incroyables films comme Apocalypse Now, Network, Le Parrain, Colors ou Le Bateau Phare, magnifique Bateau Phare de Skolimowski, Laurent.
Ouais, ce n'est pas n'importe quel acteur hein, qui peut se permettre de dire, tandis que tournoient les pales d'hélicoptère, le torse nu et un chapeau de cow-boy sur la tête, je cite, « J'adore l'odeur du napalm au petit matin ». Tel était Robert Duvall dans la peau du colonel William Bill Kilgore dans Apocalypse Now de Coppola. Mais on ne saurait réduire cet acteur à ce seul rôle iconoclaste. On a dit non sans raison qu'il était l'anti-Brando, avec un jeu remarquable, tout en intériorité concentrée et en économie. De son premier film, « Du silence et des ombres », de Robert Mulligan en 1960 jusqu'à son dernier en 2022, avec une centaine de films au compteur, il aura souvent incarné à la perfection les travers et les chaos du rêve américain, comme ce commandant de police de New York dans « La nuit nous appartient » de James Gray. Également réalisateur de 4 films, il n'a jamais soigné son image, à l'instar du rôle de pentecôtiste effrayant qu'il s'était écrit dans « Le Prédicateur » en 1997. Il est mort dimanche dernier, à l'âge de 95 ans, dans son ranch de Virginie. Comme un patriarche dans un film de Coppola.
Maintenant. On va commencer cette revue des films avec Marty Suprême de Josh Safdie, sans son frère Ben, mais très doué avec le même scénariste Ronald Bronstein. C'est l'histoire de Marty Mauser, un jeune juif de Brooklyn qui a une ambition démesurée, qui est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible, comme par exemple gagner un championnat du monde de ping-pong. On dit que le cinéma, c'est le mouvement. Et bien, le film entre complètement dans cette définition, il l'a même inventé, et le mouvement est impulsé par cet acteur, Timothée Chalamet. C'est lui le moteur de la mise en scène, menteur, voleur, manipulateur, horripilant, immature, mais tellement charmant, et complètement irrésistible comme ce film, Laurent.
Oui, c'est l'histoire d'un type libre et malicieux, dans un monde assez dégueulasse, hein, ouais. Il faut le dire. Bah, ça pourrait être une fable, mais on sait bien que c'est une réalité très partagée.
Couture de Alice Vinocourt. À Paris, en pleine Fashion Week, Maxine, une réalisatrice américaine, apprend qu'elle a un cancer. Elle croise le chemin d'Ada, une jeune mannequin soudanaise ayant quitté son pays, et Angèle, une maquilleuse française qui aspire à une autre vie. La superficialité de la mode face à la vérité des personnages, ça ressemble à un film concept, c'en est un. La mode reste un cliché, au passage Louis Garrel est un accessoire, des personnages, deux autres femmes laissées sur le côté au profit d'Angelina Jolie, plus spectrale que jamais, Laurent.
Oui, alors où sont-elles, hein, les coutures, les vraies, celles qui font mal, celles qui laissent des traces, celles qui fracturent les vies et les regards? Mais pas dans ce film lisse, artificiel, où tout semble fait précisément pour éviter d'aborder de front ce qui pose problème. Comme si la communication aseptisée, millimétrée, hollywoodienne de Angelina Jolie avait contaminé et sa réalisatrice. Ouais. Et là, c'est le film tout entier, comme un long clip sans âme ni aspérité.
Exactement. Le mystérieux regard du Flamant Rose, un premier film chilien de Diego Céspedes, pris un certain regard 2025, début des années 80. Dans le désert chilien, Lida, 11 ans, grandit au sein d'une famille flamboyante qui a trouvé refuge dans un cabaret aux abords d'une ville minière. Quand une mystérieuse maladie mortelle commence à se propager, une rumeur affirme qu'elle se transmettrait par un simple regard. C'est un western effectivement flamboyant, récit d'apprentissage sur la peur du sida ces années-là. Plutôt très attirant dans les premières images, mais un propos qui s'étire, et pas vraiment d'empathie pour les personnages.
Bon, écoutez, quel beau titre, hein, d'abord. Oui. Et quelle belle tentative de faire que le cinéma porte un autre regard sur le monde. Hein, on y croit, moi j'y ai cru, à ce vrai faux western dans le fabuleux désert chilien d'Atacama. On y croit à ces mineurs, d'abord homophobes, et bientôt touchés par la grâce d'un improbable cabaret gay et trans. Cela pourrait être un drame, c'est une histoire d'amour brinque-ballante, tendre, et c'est bien que le cinéma réussisse parfois ce genre de miracle.
Le mystérieux regard du Flamant Rose. Green Line, c'est un documentaire de Sylvie Baliot. Vous êtes allé au Liban, Laurent Lafitte, vous irez peut-être voir ce film en animation, archives et témoignages d'anciens protagonistes, retour sur la guerre civile du Liban, les victimes, le regard de leurs bourreaux, la force de la parole et du dialogue enfin possible.
Oui, c'est un retour au pays, à Beyrouth en l'occurrence, absolument bouleversant parce que la réalisatrice ne se contente pas de la corde sensible du souvenir ou de la mémoire blessée. Elle crée des éléments cinématographiques comme cet immense plan avec des maquettes géantes de la ville avec ses figurines. On songe un peu au procédé que faisait Ritipan dans certains de ses films. Et du coup, ça, la mémoire revient et les nombreux témoignages qui émaillent le film donnent des couleurs tout à fait difficiles et dramatiques 50 ans plus tard. Et c'est sur ce regard passé, avec évidemment des échos de ce qui se passe maintenant encore dans cette même région. C'est un très très beau documentaire, un très beau film.
Là, c'est une fiction et c'est toujours au Liban, à Beyrouth, un monde fragile et merveilleux de Cyril Harris. Nino et Yasmina tombent amoureux dans la cour de leur école à Beyrouth. 20 ans plus tard, ils se retrouvent par accident et c'est à nouveau l'amour fou.
Oui, alors j'avoue que la proximité avec le documentaire dont je viens de parler, Beyrouth étant un point commun, moi me pose un peu des problèmes. Ici, on cultive la nostalgie bien plus que la mémoire fracturée. On sent comme un alibi exotique dans l'utilisation, notamment d'un lieu qui est le restaurant, et les ficelles du mélo qui vont avec la désagréable impression de se faire un peu manipulé émotionnellement.
Comment il était votre Beyrouth, vous, Laurent Lafitte ? Vous avez tourné là-bas le quatrième mur.
Il était beau, mais en même temps tellement plein de stigmates, et de sons, d'odeurs, de bruits de générateurs, de coupures. C'est un chaos qu'on surpoétise un peu parfois depuis la France, parce qu'une fois qu'on y reste un peu longtemps, c'est juste terriblement difficile.
Saveur d'exil, un documentaire de Anne Solen hâte autour de maman en cuisine avec sa grand-mère vietnamienne. La réalisatrice remonte le fil du silence familial jusqu'à une histoire politique oubliée.
Ouais, mais 1h11, trop court, trop frustrant. 1h11 pour parler d'un couple de grands-parents incroyables, lui au cœur de l'histoire de son pays, le Sud-Vietnam à l'époque, elle l'exilée qui ouvre un restaurant en France, qui fait la une du Goemio, qui dit à l'époque, ah enfin un restaurant chinois digne de ce nom, et une famille qui se soude autour de cette mémoire et de cette grand-mère absolument cuisinière. Elle donne à manger à toute sa tablée qui sont là, qu'on voit dans le film. C'est extrêmement chaleureux. C'est une façon incroyable de cultiver la nostalgie, la mémoire, avec des saveurs absolument présentes. Ça s'appelle Saveur d'exil, et c'est la petite fille de cette grand-mère qui a réalisé le film.
Pour les tout-petits des 3 ans, L'ours et l'oiseau, l'animation de Marie Caudry, Aurore Peuffier et Nina Biciarina.
Oui, c'est tiré d'un livre de Marie Caudry, donc elle s'auto-adapte en quelque sorte, et le passage à l'écran avec de beaux pastels colorés et doux est très 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 bien fait, très magnifique. C'est classique, mais toujours nécessaire. Le message est là, il faut respecter l'autre, l'envisager, c'est dit sans mièvrerie, absolument. Et puis il y a, excusez du peu, les voix de Noémie Lovski, Bertrand Belin et Esteban.
Ah ouais, c'est pas mal. Maigret, le mort amoureux, Pascal Bonnizère, il fallait faire choisir Denis Podalides pour incarner et endosser la célèbre silhouette et sa marche, un grand acteur entouré d'autres grands acteurs. Anne Alvaro, Dominique Raymond, Michel Esco, Laurent Poitrenaud, bref, un film qualité France. Les filles, un film de 1978 signé Soumitria Périès et inédit en France. Laurent.
Oui, c'est le premier film
du Sri Lanka
et d'une réalisatrice sri-lankaise qui deviendra ambassadrice en France de son pays dans les années 90. C'est un très beau récit plein d'amertume et sans concession sur cette société rurale et patriarcale. C'est vraiment à découvrir.
Deux festivals.
Nous irons à Pézenas, comme aimait le dire Bobby Lapointe, du 20 au 26 février, avec en thématique le cinéma grec. Les invités, Costa Gavras, bien évidemment, Pierre Carles et Louis Plenel, Abel et Gordon et quelques autres, avec des sections Regards féminins, Mémoire de pellicule. Bref, c'est bien à Pézenas qu'il faut aller quand on habite dans la région et qu'on aime le cinéma. Et puis à Poitiers, vous irez du 20 février au 1er mars pour filmer le travail. Bon, c'est une thématique de cette édition, le travail collectif. Non, c'est un très beau festival qui s'interroge effectivement sur cette thématique que Alter Ego, avec la COGIP, traite de toute évidence aussi. Voilà.
Et une minute pour 3 cadeaux.
Eh bien, on ira comme ça. Laurent Lafitte, on vous offre le premier film, c'est 3 raretés, on vous offre le premier film d'un certain Frank Capra qui s'appelle L'athlète incomplet. N'y voyez aucun message personnel. C'est avec moi, s'il vous plaît. C'est avec Henri London, c'est merveilleux de burlesque, c'est édité par Elephant. Le même éditeur vous permet à vous, Nicolas, d'avoir Sensation Seekers, un film de Loïs Weber. C'est un très 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 belle charge contre le puritanisme des années folles. C'est une vraie pépite. Moi, je ne connais pas et j'ai découvert. C'est
excellent,
magnifique.
Merci.
Et puis pour vous, Bruno, ce sera Pâques sanglante de Giuseppe De Santis.
Ah, super.
Un film de 1950, c'est édité par Studio Canal. C'est avec les deux extra-acteurs Ralph Vallon et Lucia Bozé. C'est une vendetta légitime en milieu agricole. Un film néo-réaliste, je ne vous dis que ça.
Merci beaucoup, j'adore le titre.
Et dans quelques jours, jeudi prochain, c'est les Césars. On espère beaucoup pour Laurent Lafitte, qui a 17 ans, a été doublure lumière là-bas, et qui avait inséré sa photo en mettant « Seuls les audacieux devraient faire du cinéma !» signé Elia Kazan. Et vous êtes doublement dans ce...
Ah, bah, j'aurais pas cité Elia Kazan.
D'accord. Donc vous êtes dans Alter Ego, vous. Et Alter Ego, Nicolas et Bruno, sort le 4 mars prochain. Au revoir.
Au revoir.
C'était On aura tout vu sur France Inter.